Quelle est l'identité de l'Antéchrist? Par Rodrixie Meredith. Est-il possible par la Bible de démontrer quelle est l'identité de l'Antéchrist ou ce qu'il représente réellement? Il ne s'agit pas d'un thème à connotation ésotérique. La connaissance correcte de ce sujet peut déterminer votre capacité à demeurer fidèle à la fonction préparée par Dieu pour vous dans son royaume. Édition 1.1, avril 2012, copyright 2003, Living Church of God, tout droit réservé, ou What is the Antichrist, traduit de l'anglais sous la surveillance de Diba Apartian. Cette brochure n'est pas à vendre, elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. D'horribles événements commencent à se dérouler en Amérique et dans tous les pays qui se prétendent chrétiens. L'anéantissement des tours jumelles à New York et la destruction d'une partie du Pentagone à Washington a tourné l'intérêt de millions de gens vers les prophéties bibliques. Maintenant, ils se disent, quel est le dessein divin dans tout cela? En effet, les événements prophétisés s'accélèrent. Comme Jésus l'a enseigné, nous avons besoin de veiller et de prier. Car au cours de cette génération, d'effroyables tragédies inspirées par Satan vont frapper beaucoup d'êtres humains. L'Antéchrist sera directement derrière la plupart de ces événements. Après le 11 septembre 2001, beaucoup de gens se sont demandé si le sinistre Oussama Ben Laden n'était pas l'Antéchrist, prophétisé des temps de la fin. 10 ans plus tôt, plusieurs suspectaient Saddam Hussein d'être l'Antéchrist. Avant lui, le doute tombait sur Mikhail Gorbatchev. Aujourd'hui encore, certains considèrent qu'Adolf Hitler était la personnification de l'Antéchrist. Au milieu de toutes ces idées et de cette confusion, peut-on vraiment savoir? Est-il possible de prouver par la Bible quelle est l'identité de l'Antéchrist ou que représente-t-il réellement? Rappelez-vous que les hommes ont toutes sortes de théories à ce propos. Récemment, Jerry Falwell, un chef évangéliste en Amérique, fit part de son avis que l'Antéchrist serait probablement juif et qu'il serait issu de la tribu de Dan. Ce que M. Falwell ne sait probablement pas, c'est que la tribu israélite de Dan s'est séparée de Juda ou des juifs depuis quelques milliers d'années et qu'elle constitue un peuple à part. Au cours de l'histoire, la plupart des théologiens protestants ont soutenu que le pape de Rome était l'Antéchrist. En fait, Martin Luther, le fondateur du protestantisme, déclara le 18 août 1520 « Nous avons la conviction que la papauté est le siège du véritable et réel Antéchrist. The Prophetic Faith of Our Fathers. » Leroy Froome, volume 2, page 121. C'est nous qui traduisons tout au long de cette brochure. Plus tard, Jean Calvin, le fondateur de ce qui devint l'Église presbytérienne, déclara dans « Institution de la religion chrétienne » « Certaines personnes pensent que nous sommes trop sévères et critiques lorsque nous qualifions d'Antéchrist le pontife romain. Mais ceux qui émettent cette opinion ne se rendent pas compte qu'ils accusent ainsi l'apôtre Paul, qui en dit autant. Je démontrerai brièvement que les mots de Paul dans 2 Thessaloniciens 2 ne peuvent être démontrés autrement qu'en les appliquant à la papauté. » L'enseignement de ces chefs chrétiens est-il correct ou bien existe-t-il une autre explication? En outre, vous demanderiez « Qui vous autorise à trancher? Comment pouvez-vous prétendre détenir la vérité alors que tant de chefs de confession chrétienne sont en désaccord ?» Dans Psaume 111 au verset 10, la parole divine nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui observent ses lois sont vraiment sages. Sa gloire subsiste à jamais. » Version synodale 1971. La plupart d'entre vous savent que dans l'œuvre du Christ, nous croyons qu'il faut observer les lois divines. C'est pourquoi nous sommes capables de vous dire d'avance quels sont les événements prophétiques importants qui auront lieu. Mais comme on dit, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Les événements prophétisés sont en train de bouger rapidement. Vous pouvez prouver ce que j'écris dans cette brochure en le comparant avec soin avec la Bible et en étudiant les écritures auxquelles je me réfère. Vous allez voir que les événements mondiaux, y compris les actualités de nature religieuse, suivront de près la description que j'en fais, et vous saurez qui a raison sur ce sujet important. En effet, aborder le sujet de l'Antéchrist n'est pas un exercice d'investigation de nature ésotérique. La compréhension correcte de ce sujet pourrait être vitale pour vous et pour votre famille dans les années à venir. Ce qui est encore plus important, c'est votre participation à la première résurrection et au-delà, votre rôle dans le royaume de Dieu. Il est probable qu'à notre époque, un puissant chef religieux entre en scène. Il accomplira des signes et des miracles effrayants. Il sera la personnification finale de ce que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Cependant, comme nous allons le voir, il y a eu plusieurs antéchrists dans le passé, et il y en a de nos jours. Or, à l'origine de toute leur tromperie se trouve l'esprit de l'antéchrist, les mauvaises approches et les fausses doctrines qui ont aveuglé des milliards d'êtres humains à la vérité divine. La doctrine de l'antéchrist n'est pas comprise par la plupart des chefs religieux de ce monde. Pourquoi cela, me demanderiez-vous? Parce qu'il y a Satan le diable, un être réel. Par deux fois, Jésus-Christ l'a appelé le prince de ce monde. Jean 12 au verset 31 et Jean 14 au verset 30. Satan est le grand séducteur. L'apôtre Jean dit clairement que Satan a séduit la vaste majorité de l'humanité. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité de la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12 au verset 9. Mais je n'ai pas été séduit, direz-vous. N'en soyez pas si sûr. En effet, dans cette brochure, nous vous montrerons la séduction majeure que Satan a indiscutablement réussi à dissimuler au sein du christianisme traditionnel. La séduction la plus répandue au sujet de l'Antéchrist n'est que la partie visible de l'iceberg, de la grande tromperie religieuse véhiculée sous le nom de christianisme. En fait, cette séduction est si élaborée que des milliers de ministres et de membres du clergé, censément chrétiens, sont eux-mêmes séduits en conséquence, incapables de réaliser qu'ils sont en train de propager le mensonge. Jésus-Christ a décrit les faux chefs religieux de son époque de manière similaire. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15 au verset 14. Comment des millions de gens ont été séduits? Cette séduction de masse est très subtile, voire incroyable, parce qu'elle contient également en surface de bons principes. La plupart de ceux qui l'ont adoptée diront que nous devons croire en Christ. Ils diront que les chrétiens devraient faire preuve d'amour, de gentillesse, de miséricorde et de patience, qu'ils devraient pratiquer le bien envers leurs prochains. Donner aux pauvres, aux hôpitaux, aux bonnes œuvres, aux mères célibataires. Ils diront que les chrétiens devraient répondre à la loi d'amour de Jésus. Tout cela a une résonance biblique. Cela sonne bien. Mais ces gens-là ne vous disent pas quelles sont les lois divines qu'il faut observer, ni comment celles-ci doivent être respectées. Ils parleront avec émotion du Christ, qui est notre Seigneur. Mais ils omettront inévitablement d'expliquer que si Jésus est notre Seigneur, nous devons lui obéir. Ils ne vous diront pas que Jésus a enseigné directement et constamment l'obéissance à chacun des 10 commandements. C'est pourquoi, suite à cette séduction inspirée par Satan, de nombreuses guerres sanglantes de l'histoire moderne ont éclaté entre plusieurs nations chrétiennes d'Europe. Les évêques d'un camp bénissaient leurs troupes avant la bataille. Les évêques du camp opposé faisaient de même. Ensuite, des milliers de jeunes gens, souvent à peine sortis de l'adolescence, montaient à l'assaut d'une colline pour frapper à mort ou pour poignarder brutalement d'autres jeunes, qui étaient parfois de la même dénomination religieuse. Tout était censément chrétien, tout était supposé faire partie du corps du Christ, de l'Église dont le Christ est la tête vivante et active. Éphésiens 1 au verset 22 et 23. Est-ce que cela vous dérange un peu de lire ces choses? Cela le devrait, et ce qui est encore plus important, c'est que cela devrait vous faire réfléchir. Je l'espère pour vous, et je prie dans ce sens. En effet, dans l'ensemble, nous avons grandi au sein d'une église traditionnelle, et nous avons adopté ces croyances, pour certaines, en supposant qu'il suffisait de suivre la foule, de s'intégrer au monde, et d'avoir un mode de vie décent et raisonnable. C'est précisément de cette manière que la majorité des gens ont été séduits. Comme je l'ai été moi-même dans le passé, en croyant inconsciemment à un faux évangile, un mauvais mode de vie et un Jésus-Christ différent. Satan veut que vous manquiez la cible. Dans le Nouveau Testament, l'un des mots grecs employés pour péché signifie littéralement manquer la cible. Ainsi, Satan est content de vous laisser croire en Dieu et au Christ aussi longtemps qu'il peut vous contrôler et vous faire manquer la cible. Son but est de vous tenir hors du royaume de Dieu, qui prendra sa place et celle de ses démons, en vous rendant aveugle sur ce qui se passe réellement. Dieu inspira l'apôtre Jacques à écrire « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Jacques 2, au verset 19. Ensuite, l'apôtre Jacques explique comment les véritables chrétiens ne doivent pas seulement croire en Dieu, mais encore se soumettre à la volonté divine et faire ce qu'il dit, verset 20 au verset 23. Jacques écrit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Verset 24. Justifié par les œuvres? Oui, dans le prolongement de la foi. Lisez vous-même le verset 24. Il est parfaitement clair que les véritables chrétiens doivent faire plus que d'accepter seulement dans la foi un don gratuit de Dieu, la mort du Christ en paiement de l'amende requise pour nos péchés. Lorsque nous acceptons le sacrifice du Christ, nous contractons aussi une alliance avec notre Créateur, qui nous engage à ne plus pécher dans l'avenir, à véritablement laisser le Christ vivre sa vie d'obéissance en nous par le Saint-Esprit. En effet, la parole divine nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » 1 Jean 3, au verset 4. Ainsi, nous devons nous repentir du péché, nous repentir de transgresser la loi spirituelle de Dieu, les 10 commandements. Cela implique de vivre avec humilité dans l'obéissance, faire des œuvres en observant les lois et les commandements divins. Il faut comprendre que personne ne pourra jamais gagner le salut. Celui-ci est un don de Dieu. Le don du salut ne s'obtient que par la grâce divine. Éphésiens 2 au verset 8 à 10 et Romains 6 au verset 23. Ceux qui veulent obéir à Dieu, Actes 5 au verset 29 et 32, et qui sont sous la véritable grâce divine, seront son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2 au verset 10. La grâce divine n'annule pas la nécessité d'observer les commandements divins. L'apôtre Paul a averti qu'il était même possible de recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6 au verset 1. Bien que l'apôtre Pierre exhorta les chrétiens à avoir une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 1 Pierre 1 au verset 13, il poursuit en expliquant ce que nous devons faire comme des enfants obéissants. Verset 14, voir aussi le verset 2. Lorsque des hommes habiles abusent de la grâce en enseignant une grâce superficielle qui exclut la véritable repentance, nous sommes en présence de l'essence même de la doctrine de l'Antéchrist. Ce faux concept a laissé libre des millions de prétendus chrétiens. Ce faux concept a laissé libre des millions de prétendus chrétiens vivre en transgressant les 10 commandements de façon régulière, par habitude, tout en s'assurant qu'ils sont de bons chrétiens. L'apôtre Jude fut inspiré à nous avertir de cette séduction. « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Jude 3 et 4. Remarquez que Jude nous met en garde contre les faux enseignants qui emploient l'idée de la grâce pour faire passer le dérèglement, c'est-à-dire la permission de désobéir aux lois divines. « Mais mon ministre ne ferait jamais une telle chose, protesterez-vous peut-être. » Je suis désolé, mais il est fort possible que vous aurez confirmation de ce que je suis en train de vous dire si vous l'abordez par cette question directe. Dieu demande-t-il aux véritables chrétiens d'observer les 10 commandements? Si vous posez brusquement cette question, la plupart des membres du clergé commenceront par marmonner quelque chose au sujet du salut par la grâce. Ensuite, il se pourrait qu'ils se hâtent d'ajouter que les 10 commandements sont un bon guide moral, mais que vous n'êtes pas obligé de les observer puisque vous êtes sauvés par la grâce. Si vous insistez et si vous essayez de le coincer pour l'obliger à vous fournir une réponse franche, il est possible qu'il cherchera à se dérober ou à vous diriger sur les nouveaux commandements de Jésus. En fin de compte, peut-être finira-t-il par vous dire que toute la théologie traditionnelle enseigne que les 10 commandements furent cloués sur la croix, à la mort du Christ, ou que l'apôtre Paul, d'une manière ou d'une autre, les supprima. Comme je vais vous l'expliquer, nous sommes là au cœur même de la doctrine de l'Antéchrist. Comment cela? Pourquoi un tel sujet est-il si important? Parce qu'il crée une société sans loi, une société coupée de Dieu, puisque les 10 commandements reflètent le caractère divin. Le suprême dessein divin consiste à implanter en nous la nature divine à travers le Saint-Esprit. 2 Pierre 1 au verset 4. Cela implique que nous passions par un processus de croissance spirituelle et que nous parvenions à vaincre afin de refléter le véritable caractère divin requis pour gouverner avec le Christ dans son royaume à venir. Jésus a déclaré « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Apocalypse 2, au verset 26 et 27. Une doctrine de rébellion. Les véritables saints sont des êtres que Dieu prépare pour remplacer Satan et ses démons aux commandes de cette terre. Satan est encore le dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, au verset 4. Il est représenté comme le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, au verset 2. Cependant, l'apôtre Paul nous dit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? 1 Corinthiens 6, au verset 2 et 3. Comment se fait-il que vous n'ayez pas entendu parler du but suprême du véritable chrétien, qui consiste à gouverner dans le monde demain? La réponse est simple. Satan fait barrage à cette connaissance de sorte que les êtres humains soient incapables de le remplacer, lui et ses démons, pour gouverner cette terre. En conséquence, lui, le père du mensonge, Jean 8 au verset 44, a séduit la vaste majorité de l'humanité, y compris les 2 milliards de prétendus chrétiens. En ce qui concerne le dessein divin pour l'homme et la voie qui conduit vers ce but. De toutes les tromperies sataniques, il n'en est pas une qui égale son système de contrefaçon du christianisme. Les apôtres savaient que cela devait arriver. L'apôtre Paul a écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, 7 et 8. Remarquez que ce faux système religieux est appelé le mystère de l'iniquité. Peu de temps avant le retour du Christ, ce système sera dirigé par une figure appelée l'homme du péché ou l'homme impie. Ailleurs, dans les Écritures, nous apprenons que cet homme qui accomplira des prodiges mensongers, verset 9, se révèle comme le faux prophète, faiseur de miracles, Apocalypse 13 au verset 13 et Apocalypse 19 au verset 20. Notez que l'apôtre Paul dit que ce faux christianisme était déjà en train d'agir alors qu'il rédigeait, lui, son épître, comme il agit encore de nos jours. Les partisans de ce système inique parle au sujet de l'amour et du Seigneur, mais il passe outre les fortes instructions d'observer les commandements divins. Pourtant, lorsqu'un jeune homme alla s'enquérir auprès de Jésus du chemin qui mène à la vie éternelle, Jésus lui répondit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Matthieu 19 au verset 17. Ensuite, il cita quelques-uns des 10 commandements. Et dans son sermon sur la montagne, Jésus nous dit: celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Matthieu 5 au verset 19. Qui s'arroge le droit de supprimer cet enseignement de Jésus-Christ? Est-ce votre ministre? Est-ce votre église? À nouveau, l'apôtre Paul a averti les chrétiens de son époque, car si quelqu'un vient pour prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11 au verset 4. Sans l'avoir voulu, la plupart d'entre nous ont grandi en entendant parler d'un autre Jésus. d'un autre esprit et assurément d'un autre évangile que Jésus et les apôtres prêchèrent. Pourquoi? Parce que Satan s'est servi de toute sa ruse pour amener les gens à croire à la doctrine de l'Antéchrist. Si vous voulez faire face à la réalité, si vous voulez vraiment réaliser le but pour lequel vous êtes né, vous devez comprendre ce qu'est cette doctrine et la rejeter à tout prix. Jésus lui-même nous met en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, au verset 4 et 5. Notez que beaucoup seront séduits. Comment cela? Ils seront séduits parce que plusieurs faux enseignants sont venus sous le nom de Jésus. Comprenez cela. Ils utilisent le nom de Jésus pour séduire les gens. Ils viennent comme s'ils étaient des prédicateurs et des enseignants chrétiens. Mais leur message est manifestement contraire au message prêché par Jésus. Parce qu'ils ont lu une étiquette avec la mention « chrétien » sur la boîte, la majorité des gens prétendent sans réfléchir que le Christ doit forcément approuver le contenu du colis. Ces gens, séduits, n'ont pas pris la peine d'étudier vraiment la Bible. Ils ont négligé de prouver toute chose, comme Dieu nous l'ordonne. C'est pourquoi ils se sont si facilement laissés séduire par un faux christianisme basé sur la doctrine de l'Antéchrist. Le terme « Antéchrist » apparaît pour la première fois dans 1 Jean 2 au verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrist. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est ici que nous voyons, pour la toute première fois, l'Antéchrist dont il avait entendu parler. Il s'agit, bien sûr, de l'impie mentionné par l'apôtre Paul et du faux prophète de l'Apocalypse. Certains identifient erronément l'Antéchrist au dictateur mondial à venir, ou au système politique appelé la bête dans les prophéties bibliques. Ils oublient que la réelle puissance qui agit derrière le trône est la mystérieuse prostituée d'Apocalypse 17, et que cette femme dépravée conduit au contrôle la bête de l'Apocalypse. La prostituée d'Apocalypse 17. Des millions de gens, y compris des théologiens, sont perplexes au sujet de la mystérieuse prostituée d'Apocalypse 17. Cependant, la parole divine consacre plus d'un chapitre entier et fait de nombreuses références ailleurs dans la Bible sur ce sujet important. Qui est cette prostituée et qu'a-t-elle à voir avec l'Antéchrist? Quoi qu'il en soit, cette grande prostituée est détentrice d'un grand pouvoir. Elle est responsable de la mort de millions de gens dans le passé et elle fera mourir encore plus de gens dans le futur. Elle affectera de manière dramatique la vie de tous ceux qui vivront au temps de la fin, y compris celle d'un grand nombre de ceux qui lisent cette brochure. La prostituée est assise à califourchon sur un système qui concerne un grand nombre de nations et de peuples. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Apocalypse 17, au verset 15. Cette prostituée sera présente jusqu'au second avènement du Christ. En effet, la parole divine décrit les 10 cornes ou les 10 rois, verset 12, qui s'élèveront à cette époque. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Versets 14 et 16. Des théologiens et des commentateurs bibliques tentent de rester politiquement corrects lorsqu'ils se réfèrent à cette grande prostituée. Notez par exemple ce que déclare The Expositor Bible Commentary au volume 12, pages 553 et 554. Dans un sens, l'interprétation de ce chapitre conditionne l'interprétation de tout le livre de l'Apocalypse. Pour une majorité d'exégètes, Babylone représente la ville de Rome. La bête domine tout l'Empire romain avec ses sujets, ses provinces et ses peuples. Les 7 collines, verset 9, sont les 7 dynasties établies par les empereurs romains d'Auguste à Domitien. Les 10 rois sont les têtes d'État plus petits et agités, impatients d'échapper à la soumission de la puissance colonisatrice. La prédiction de Jean sur la chute de Babylone est une annonce de la dissolution imminente de l'Empire romain sous tous ses aspects. Alors que les commentateurs identifient correctement Babylone à la ville de Rome, ils supposent erronément que les premiers lecteurs chrétiens comprenaient que toutes les fois qu'ils étaient menacés de mort par une puissance temporelle, ils faisaient face en réalité à la mère des impudiques, que Dieu finira par juger et détruire une fois pour toutes. Page 557. Ces érudits comprenaient correctement l'identité de Babylone, comme ceux de nos jours, mais ils étaient incapables de voir que c'est la femme, la grande prostituée qui conduit la bête, la Babylone moderne. Cette femme est clairement distincte et séparée de la bête. L'empire constitué des 10 derniers rois qui donneront leur puissance et leur autorité à un supradictateur, également appelé la bête. La femme ne peut évidemment pas conduire la bête, tout en étant elle-même la bête. Beaucoup d'érudits réalisent cependant que la bête d'Apocalypse 17 représente l'Empire romain, comprenant ses résurgences sous d'autres formes. Pour recevoir une explication fascinante et détaillée de l'identité de la bête d'Apocalypse 17, écrivez-nous et nous vous enverrons un exemplaire gratuit dans notre brochure intitulée « La bête de l'Apocalypse ». Qui est cette femme? Dans le Nouveau Testament, le terme « femme » est utilisé comme symbole pour représenter une église. Par exemple, l'apôtre Paul écrit à l'église de Dieu à Corinthe. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens 11, au verset 1 et 2. Il est clair ici que la véritable Église est décrite comme la fiancée de Jésus-Christ, comme une femme engagée vis-à-vis de son fiancé, qui est Jésus-Christ. Dans Éphésiens 5, au verset 23 et 24, l'apôtre Paul écrit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Une fois encore, cette analogie représente la véritable Église comme une femme, une épouse qui est soumise à son mari, le Christ. Et dans Apocalypse 12, au verset 1 à 5, nous pouvons lire le récit inspiré de la femme, se référant cette fois à l'ancien Israël. L'assemblée au désert, acte 7, au verset 38, employé par Dieu pour porter le Messie, un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 12, au verset 6, révèle l'histoire de la femme, maintenant l'Église du Nouveau Testament, qui s'envole au désert dans son lieu préparé par Dieu. Les versets suivants rendent encore plus manifeste que cette femme est en réalité la véritable Église de Dieu qui sera protégée par lui personnellement de la colère de Satan. Ainsi, en laissant la Bible interpréter ses propres symboles, lorsque nous arrivons à la femme d'Apocalypse 17, il est évident que cette femme est en réalité une église. Cependant, cette église, assise sur une bête écarlate, verset 3, est en réalité une prostituée spirituelle. Elle a conclu des alliances adultères avec les dirigeants et les rois de ce monde, verset 2. Et les habitants de la terre sont spirituellement ivres à cause de ces faux enseignements. C'est une église mère qui a donné naissance à des prostituées spirituelles, verset 5. Comme la Bible l'indique, elle agit mystérieusement comme les anciennes religions païennes à mystère. Une église qui persécute. Cette femme est également une grande église persécutrice. L'apôtre Jean fut inspiré à écrire « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Verset 6. Pensez à tout cela, je vous prie. Quelle est la grande femme déchue, l'église puissante qui est ivre du sang des saints et qui le sera davantage? Il est clair qu'elle persécute les véritables chrétiens, les véritables saints de Dieu. Ils sont identifiés dans Apocalypse 14 au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À l'inverse de l'église de Dieu qui garde ses commandements, cette grande église apostate et ses églises filles rejettent la nécessité d'observer les 10 commandements. En tant que mode de vie. D'une manière ou d'une autre, dans leur ivresse spirituelle, elles s'arrangent pour argumenter autour des enseignements clairs et précis de Jésus. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, au verset 17. D'après l'histoire, pouvons-nous lire des documents concernant une grande église qui a persécuté des millions de gens au cours du Moyen-Âge? Une telle église existe-t-elle actuellement? Dans son livre bien documenté, A Woman's Rights, The Beast, pages 243 et 244, l'auteur Dave Hunt décrit ce que la femme fit au cours du Moyen-Âge. le catholicisme romain devint le plus grand persécuteur de la foi que le monde ait jamais vu, ordonnant au trône d'imposer la religion chrétienne, catholique, à tous ses sujets. Innocent III fit assassiner beaucoup plus de chrétiens en un après-midi que n'importe quel empereur romain au cours de son règne. Will Durant écrit avec justesse, comparé avec la persécution des hérétiques en Europe de 1227 à 1492, la persécution des chrétiens par les Romains au cours des trois premiers siècles après Jésus-Christ apparaît comme une procédure douce et humaine. Tout compte fait, force est de constater que l'Inquisition a dépassé en férocité et en bestialité tous les types de persécution et de guerre de notre époque. Lorsque l'apôtre Jean vit cette femme, cette église apostate ivre du sang des saints, il n'exagérait pas. Un grand nombre d'écrivains catholiques se trouvèrent fort embarrassés au sujet de ce qu'avait pratiqué leur église durant des centaines d'années. Tous ces récits connus maintenant, des prêtres sodomisant de jeunes garçons, de nombreux papes entretenant ouvertement des maîtresses et devenant pères de nombreux enfants illégitimes à travers toute l'Italie, de même que l'attribution de hautes fonctions sacerdotales contre le versement de fortes sommes d'argent, ont laissé l'impression à de nombreux historiens objectifs que cette église puissante était la véritable incarnation du mal sous toutes ses formes. La petite corne de Daniel. Le prophète Daniel fut inspiré à dépeindre ce système religieux répugnant comme une petite corne. Après les quatre grands empires païens dominants, babyloniens, médo-perses, gréco-macédoniens d'Alexandre et finalement romains, Daniel décrit une petite corne, émergeant dès le début des différentes résurrections de l'empire romain. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 7, au verset 8. Au verset 25 à 27 de ce même chapitre, Daniel fut inspiré à décrire les actions de cette petite corne arrogante et comment elle se maintiendrait jusqu'à ce que le Christ revienne et qu'il gouverne sur les nations. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Remarquez que cette petite corne est distincte de l'empire païen. Verset 24. Elle est en réalité une religion d'empire. Remarquez également que le chef humain de ce système répugnant prononce des paroles arrogantes contre Dieu, qu'il persécute les véritables chrétiens et qu'il a l'intention de changer les temps et la loi. L'Église catholique romaine a fait exactement cela. Selon ce qui est annoncé par les Écritures, en enseignant que les 10 commandements étaient soumis à l'autorité ecclésiastique et que de par son autorité, elle avait le droit de changer le sabbat du septième jour commandé par Dieu. Exode 20 au verset 8 à 11 et Hébreux 4 au verset 9 à 11, en lui substituant le jour du soleil païen, c'est-à-dire le dimanche. Le célèbre historien Will Durant écrit « Le caractère important du sabbat juif fut transféré sur le dimanche chrétien, qui le supplanta au second siècle. » The Story of Civilization, volume 3, 1972, page 599. Et qu'arrivera-t-il? Selon un cours de religion catholique, l'Église catholique transféra l'obligation d'observer le samedi au dimanche. Father Smith, Inscript Jackson. Le Catholic Mirror admet « L'Église catholique, en vertu de sa divine mission, changea le jour du samedi au dimanche. » 23 septembre 1893. Si vous désirez obtenir de plus amples informations au sujet du véritable sabbat chrétien, écrivez-nous pour recevoir notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» La papauté annoncée d'avance. Comme nous l'avons vu, la petite corne de Daniel décrit une fausse église, et en particulier son porte-parole, le pape, prononçant des paroles arrogantes. Dans le Nouveau Testament, Dieu inspira l'apôtre Jean à décrire la résurrection de la bête finale, l'Empire romain. Apocalypse 13 au verset 1 à 10. Ensuite, au verset 11 à 14, une autre bête se met à monter. Elle est comme un agneau ou le Christ, mais elle s'exprime comme un dragon, Satan le diable, Apocalypse 12 au verset 9. Ce faux prophète extrêmement astucieux et sinistre exerçait toute l'autorité de la première bête, l'Empire romain ressuscité, en sa présence, et obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13 au verset 12. En d'autres termes, ce grand faux prophète est capable d'obliger la plupart des gens à respecter l'Empire romain ressuscité et à s'y soumettre. Ensuite, nous lisons. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Versets 13 et 14. Alors que ce système se développait, un homme du péché devait être révélé. En s'appropriant avec audace des titres et une autorité qui n'appartiennent qu'à Dieu, siégeant comme un véritable Dieu dans le temple de Dieu et utilisant certains des attributs divins. En fait, bien que Jésus appela Dieu Saint-Père, les catholiques romains appellent le pape le très Saint-Père et le vicaire du Christ, c'est-à-dire littéralement à la place du Christ. Dave Hunt décrit les prétentions blasphématoires de la papauté. La soumission totale requise par Rome a été exprimée par de nombreux papes, mais aucun ne l'a dite plus clairement que Nicolas Ier, 858-867. Il est manifeste que les papes ne peuvent être ni liés ni déliés par une puissance terrestre quelconque, pas même par l'apôtre Pierre, s'ils revenaient sur la terre, puisque Constantin le Grand a reconnu que le pontife tenait la place de Dieu sur terre, la divinité ne pouvant être jugée par aucun homme vivant. Nous sommes donc infaillibles, et quels que puissent être nos actes, nous n'avons de compte à rendre qu'à nous-mêmes. A Woman's Rise the Beast, page 153-154. Ainsi, les papes ont affirmé qu'ils tenaient la place de Dieu sur terre. Et ce qui est le plus effrayant, c'est qu'ils continuent à soutenir de telles affirmations. À l'époque de notre prétendu monde moderne, du fait que l'Église catholique romaine est une entité omniprésente et très puissante, les médias ne réagissent d'ordinaire que modérément aux déclarations les plus outrageantes et les plus blasphématoires des papes et du clergé moderne. Mais en quoi tout cela pourrait affecter votre existence? La bête et la femme s'associent. Peu de gens réalisent que le prétendu Saint-Empire romain est en train de reprendre vie sous notre nez. Dans la plupart des territoires d'Europe continentale, s'exerce une forte poussée pour réaliser une unité européenne totale. L'un des acteurs essentiels dans ce jeu d'échecs géopolitiques est, vous l'avez deviné, le pape en personne. Dans son livre détaillé et révélateur, The Principality and Power of Europe, pages 36 à 37, l'auteur britannique Adrian Hilton explique ce qui va se dérouler. Alors que je visitais l'Autriche en 1983, le pape se prononça contre les frontières nationales et artificielles qui délimitent les pays d'Europe. Il ajouta « Les Européens devraient triompher des conflits internationaux menaçants, d'États et d'alliances, et créer une nouvelle Europe unifiée de l'Atlantique à l'Oural. » En 1988, il continua sur ce thème lorsqu'il s'adressa au Parlement européen de Strasbourg, ce qui fut pour beaucoup une occasion de se demander pourquoi un chef spirituel faisait des déclarations d'unité politique. Le Sunday Telegraph, en 1991, résuma les plans du pape pour l'évangélisation de l'Europe en déclarant « Il se prépare tout doucement à endosser le manteau dont il se croit avec sérieux être le détenteur de droits divins, c'est-à-dire celui d'un nouveau Saint-Empereur romain régnant de l'Oural à l'Atlantique. » Quoique la Bible ne dise pas que le dernier pape sera l'empereur de ce Saint-Empire romain ressuscité, elle montre qu'il sera la puissance agissante du trône. Comme Dieu l'a clairement indiqué, le faux prophète à venir fera en sorte que ceux qui n'adoreront pas ce système soient tués. Apocalypse 13, au verset 15. Ainsi, comme beaucoup de papes firent au cours du Moyen-Âge, il utilisera la puissance de l'État, la bête, pour imposer sa volonté à l'ensemble du monde occidental. Vous souvenez-vous de ce qui arrivait sous Hitler? Un coup dans la porte. Voilà que le père ou la mère était enlevé est poussé dans un fourgon par la police pour avoir dit ou fait quelque chose de politiquement incorrect. Pensez-vous que cela ne pourrait pas se reproduire? Vous auriez tort de ne pas y croire. Le Dieu suprême qui nous donne la vie et le souffle décrit comment, une fois encore, la femme dirigera la bête. La plupart des gens ne réalisent pas que les faux enseignements et les pratiques de cette femme déchue ont infiltré le monde entier. C'est précisément ce qu'a décrit l'apôtre Jean. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, au verset 9. Même les divers groupes protestants ont été inconsciemment enivrés du paganisme de ce système. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 17, au verset 2. Chacun de nous a besoin de se rendre compte que Satan est le Dieu invincible de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. Et que toutes les nations sont spirituellement ivres. Voici le commentaire du respecté Critical and Experimental Commentary, qui décrit ce système dans son intégralité et les filles prostituées sorties de Rome, la mère. Non seulement Rome, mais encore la chrétienté dans son ensemble, de même qu'Israël dans son ensemble, sont devenues une prostituée. Extérieurement, en s'étendant à travers le monde et intérieurement en s'y conformant, son accomplissement terrestre, de par sa dimension et sa teneur, est symbolisé du nom de Babylone. Volume 6, page 710. L'œcuménisme, prostitution religieuse. Les journaux, à notre époque, sont pleins d'articles traitant du mouvement œcuménique. Une récente manchette annonce « Discussion entre les chefs du renouveau du catholicisme romain et de l'orthodoxie orientale ». Une autre déclare « Formation de l'alliance épiscopalienne et luthérienne ». De plus en plus d'églises protestantes essaient de se rassembler. Et un certain nombre se prépare à retourner au sein de la mère, l'Église catholique romaine. En parlant des conversations entre l'Église romaine et l'Église orthodoxe orientale, un article du San Diego Union Tribune daté du 9 juillet 2000 rapporte. Je cite. En fin de compte, les églises pourraient même résoudre leurs disputes anciennes au sujet de l'autorité papale, a dit le révérend Robert Stephanopoulos, doyen de la cathédrale orthodoxe de New York et vétéran des rassemblements œcuméniques. Cela pourrait se produire assez rapidement. Mais lorsque je dis assez rapidement, disons que nous parlons entraînant un passé d'un millier d'années. Cette reconnaissance de la suprématie du pape pourrait se produire beaucoup plus vite que Robert Stephanopoulos ne se l'imagine. Aussi rapidement que les nations d'Europe de l'Est commencèrent à rompre avec l'Union soviétique. Parfois, les événements mondiaux semblent se réaliser en une nuit. Ainsi, des centaines de millions de membres pourraient s'ajouter à l'Église catholique romaine dans les prochaines années, lorsque ses filles reviendront au bercail. En comparaison, la petite Église de Dieu, dispersée ici et là en petits groupes, semblera n'être qu'un point minuscule. En vérité, nous aurons besoin de compréhension, de foi et de courage pour traverser les années d'épreuves à venir. Jésus a dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu 24, au verset 24. À l'avenir, nous verrons la pression monter à l'initiative du pape et des autres pour faire de Jérusalem une ville internationale. Peut-être sous le contrôle du Vatican et des Nations Unies ou d'autres instances internationales. La pression implacable du mouvement œcuménique s'intensifiera. La grande Église mère insistera avec une ferveur croissante pour que ses filles rentrent à la maison. Au cours des prochaines années, la seconde bête d'Apocalypse 13 montera sur scène. Nous pouvons lire au sujet de cet homme dans Apocalypse 13 au verset 11 à 14, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Ce puissant chef religieux à venir sera semblable à un agneau. Dans Apocalypse 14, le Christ est décrit comme étant l'agneau. Or, ce chef religieux à venir aura l'apparence du Christ. Mais l'apôtre Jean écrit que ce chef parlera comme un dragon. Et dans Apocalypse 12, au verset 9, Jean fut inspiré à écrire. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans l'Apocalypse, Satan le diable est clairement désigné comme étant le dragon. Par conséquent, ce faux prophète à venir apparaîtra aux yeux de milliards d'êtres humains sous les traits du Christ. Mais son message sera celui de Satan le diable. Ce chef charismatique accomplira de grands prodiges et fera même descendre le feu du ciel. Il est également décrit dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3 sous le nom de l'homme impie, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 4. La Bible dit que ce futur chef religieux sera adoré par ses fidèles. Cet homme fera son apparition quelques années avant le second avènement du Christ, et le Christ l'écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 8. Cet homme est appelé un impie. Au verset 7, l'apôtre Paul écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » À l'époque où l'on se déplaçait à dos d'âne ou en char à bœuf, l'apôtre Paul ne parlait pas des lois de la circulation. Il parlait d'un homme et de tout un système religieux qu'il conduit, le mystère de l'iniquité, et qui s'oppose aux lois divines et les transgresse systématiquement. Comme dans Apocalypse 13, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 10. Nous avons tous besoin de comprendre que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Les forces de Satan se déplacent rapidement afin de parvenir à leur fin. Au cours des prochaines années, sous l'influence de Satan et dans les limites fixées par Dieu qui lui permet d'exercer son emprise dans cette atmosphère terrestre dont il est le prince, Éphésiens 2 au verset 2, les forces démoniaques manifesteront sans précédent leur pouvoir à travers un système politico-religieux qu'elles contrôleront au nom du christianisme. Très peu de protestants, d'orthodoxes et d'autres groupes religieux auront la foi et le courage de résister à cet assaut. Ils imposeront de force la redoutable marque de la bête et amèneront une terrible persécution sur les véritables chrétiens, les saints de Dieu. Plusieurs antéchrists. Nous avons vu que la Bible parle de l'antéchrist. Mais il est encore plus important de noter ce que l'apôtre Jean fut inspiré à écrire dans son épître. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. 1 Jean 2 au verset 18. Il est donc clair que le terme antéchrist ne s'applique pas uniquement aux faux prophètes, quoiqu'il soit sans nul doute le porte-parole principal de ceux qui enseignent les doctrines de l'antéchrist. Comme la majorité des érudits modernes le reconnaissent, antéchrist signifie « esprit ou personne en opposition au Christ ». L'apôtre Jean continue à parler de tous ceux qui sont des antéchrists en disant « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Versets 22 jusqu'à 24. Notez que l'apôtre Jean fut inspiré à avertir les chrétiens de maintenir l'enseignement original qui leur avait été donné. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure. Cela veut dire demeurer ou obéir à l'enseignement direct du Christ concernant la loi divine. En effet, dès le commencement, Jésus leur a enseigné à observer les commandements. Il les a avertis continuellement qu'en se servant de son nom, ils ne désobéissent pas à ses instructions. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6, au verset 46, et encore, « Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, au verset 21. Nous demeurons donc en Christ et dans le Père en obéissant à un Dieu et en vivant comme le fit Jésus, de toute parole de Dieu. Jésus a expliqué, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean 14, au verset 23 à 24. La première épître de Jean décrit l'esprit de l'Antéchrist avec plus de détails. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, au verset 1 à 4. En conséquence, il est très important de comprendre que l'enseignement de l'Antéchrist est reconnaissable à cette fausse doctrine, qui n'admet pas que Jésus-Christ était intégralement humain. Elle n'admet pas que le Christ était vraiment venu dans la chair. Pourquoi, demanderiez-vous? Qu'y a-t-il de spécial au fait que le Christ soit venu en chair? Premièrement, il faut comprendre pourquoi Satan s'efforce continuellement de séduire les gens pour qu'ils désobéissent à la loi divine, aux 10 commandements. Ce genre de transgression consiste à pécher, puisque le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, au verset 4. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, au verset 23. Ainsi, si Satan, d'une manière ou d'une autre, empêche les êtres humains d'obéir à Dieu pour que Dieu ne construise pas en eux son caractère et sa nature, ces individus désobéissants demeureront sous la mente de la mort, coupés de Dieu. Il leur sera impossible de se préparer à devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume du Christ, voir Apocalypse 5, au verset 10, et par là même de remplacer Satan et ses démons. Des arguments diaboliques. Afin que les gens n'essaient même pas d'observer les commandements divins, Satan utilise la doctrine de l'Antéchrist pour promouvoir l'idée qu'il n'est pas possible aux êtres humains de les observer. Les enseignements de l'Église catholique romaine et de la plupart des églises protestantes minimisent, en effet, l'humanité du Christ, en laissant entendre par divers arguments qu'il n'était pas entièrement en chair. Leur théologie amène à conclure qu'il n'était pas réellement sujet aux attractions charnelles, comme nous le sommes, mais qu'il n'était pas réellement tenté, comme nous le sommes, concluant même qu'il n'était pas capable de pécher. Selon ce qu'ils comprennent, le Christ ne fut pas vraiment un exemple pour nous, puisqu'il n'était pas tout à fait dans la chair humaine. Satan souhaite que nous croyions qu'il n'est pas possible d'observer les commandements de Dieu, et que Jésus-Christ n'aurait pas pu pécher et les transgresser. L'Église catholique romaine va même plus loin dans cette idée. Elle enseigne, erronément, que mis à part la Vierge Marie, tous les êtres humains, depuis Adam et Ève, sont nés avec le péché originel, dans l'incapacité d'observer les 10 commandements. Cet enseignement dit que seule Marie fut sauvegardée par une immaculée conception, qu'elle mena une vie parfaite, sans péché, ce qui lui permit de devenir la mère de Dieu. Selon cet enseignement, Marie aurait pu pécher, mais elle ne le fit pas, alors que notre Sauveur ne pécha point et n'aurait pas pu le faire. Si cela avait été exact, Marie, et non pas Jésus, serait devenue notre exemple d'une vie humaine exempte de péché. Quelle insulte à l'encontre de notre véritable Sauveur. Cependant, l'épître de Paul aux Hébreux nous dit, « Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Hébreux 2, au verset 18. Et encore, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Hébreux 4, au verset 15. Cela fut-il rendu possible par une sorte de puissance surnaturelle qu'il possédait en propre? Jésus était-il pleinement Dieu alors qu'il était dans la chair? En vérité, il était le personnage qui avait été avec le Père dès le commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, au verset 1. Mais plus tard, la parole a été faite chair. Verset 14. Beaucoup de passages bibliques révèlent que Jésus, en étant dans la chair, ne pouvait pas exercer le pouvoir illimité qu'il avait antérieurement, avant son incarnation. Par exemple, l'évangile selon Marc nous dit que lorsque Jésus revint dans sa patrie, parmi sa famille et ses voisins sceptiques, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Marc 6, au verset 5. Jésus lui-même a dit « Je ne peux rien faire de moi-même » Jean 5, au verset 30. Tandis qu'il était dans la chair, Jésus préféra ne pas guérir les gens dans une ambiance d'incrédulité. En tant qu'être humain, Jésus fut tenté en toutes choses, comme nous le sommes, mais il ne pécha point. En cela, il devient clair qu'il soit possible pour nous également d'observer les 10 commandements, alors que nous sommes des êtres humains dans la chair. Oui, mais comment? De la même façon que le Christ le fit. L'Épître aux Hébreux nous dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Il a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5, au verset 7. Si le Christ a littéralement présenté avec de grands cris et avec larmes des supplications au Père pour être épargné de la mort, il est manifeste qu'il était vraiment un être humain en chair, et que nous aussi, nous devrions crier à Dieu de la même façon afin d'avoir son aide. Jésus a été notre exemple en observant les 10 commandements dans la chair. Nous avons un sauveur et un souverain sacrificateur qui comprend parfaitement les pulsions de la nature humaine, contre lesquelles nous devons lutter, grâce à son esprit qu'il place en nous. Comme nous allons le voir, le Christ nous fortifie pour vaincre la tentation et pour que nous puissions observer les 10 commandements, bien que nous soyons dans la chair. Or, la doctrine de l'Antéchrist dit exactement le contraire. Bien que Satan soit assez astucieux pour ne pas enseigner directement aux gens à pécher, la doctrine de l'Antéchrist ouvre néanmoins la porte pour séduire les gens, en les entraînant à transgresser régulièrement un ou plusieurs commandements divins, en toute impunité, tout en étant persuadés qu'ils n'en demeurent pas moins de bons chrétiens. Un enseignement universel. Ce raisonnement astucieux, dispensé dans la plupart des séminaires du monde entier, dit en substance « Puisque la loi divine est spirituelle et que nous ne sommes que physiques, nous ne pouvons pas observer la loi divine, sainte et juste. De la sorte, le Christ l'a observé à notre place. Maintenant, il nous suffit d'accepter le Christ, et sa justice nous est en quelque sorte imputée, sans aucune nécessité de pratiquer des bonnes œuvres. Ensuite, ce raisonnement s'appuie sur toute une série d'interprétations erronées et de perversions du sens des écrits de l'apôtre Paul. Des théologiens sans jugement tordent littéralement, avec astuce, des dizaines de versets tirés des lettres de l'apôtre Paul, pour contredire les instructions pures et claires de Jésus-Christ, de son disciple le plus proche, Jean, et de son frère, Jacques. C'est l'une des raisons pour laquelle la célèbre déclaration de Martin Luther dit que l'épître de Jacques est un épître de paille. Luther avait en horreur le fait que l'apôtre Jacques avait enseigné sans détour l'obéissance aux 10 commandements. Voir Jacques 2, versets 8 à 12. L'apôtre Pierre fut même inspiré à nous avertir. Dans 2 Pierre 3, versets 15 et 7, je cite, « Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. » Fin de citation. Effectivement, Pierre a dit que des hommes tordraient les écritures de Paul pour leur propre ruine. L'apôtre Pierre poursuit cet avertissement inspiré. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Verset 17. Est-ce un avertissement qui devait nous éloigner de l'égarement des impies? Absolument, car c'est précisément de cette manière que l'apôtre Pierre savait que des hommes séduits tordraient les écrits de l'apôtre Paul pour trouver prétexte à désobéir à la loi spirituelle de Dieu, aux 10 commandements. Ce message a besoin d'être entendu aujourd'hui, plus que jamais auparavant. Des millions de gens séduits de par le monde sont réellement dans la confusion en matière religieuse. Ils sont ou lassés de la religion traditionnelle ou désillusionnés par les religions organisées en général. C'est ainsi que certains lui tournent simplement le dos, alors que des millions d'autres ont virtuellement inventé leur propre religion. C'est ce que le magazine Newsweek du 8 mai 2000 rapporte sur les adolescents d'aujourd'hui et leurs croyances. Je cite. Au lieu de rechercher des vérités absolues dans la doctrine, ils sortent du cadre des dénominations religieuses et ils se comportent en consommateurs qui évaluent ce que leur propose la grande diversité des systèmes de croyances. Beaucoup se considèrent plus spirituels que religieux. Je crois qu'il y a une force supérieure qui œuvre dans ma vie, mais je ne peux pas mettre un nom dessus, a dit Amy McKinney, 18 ans. Lorsque je prie, je ne demande pas à Dieu de tout arranger pour moi. Au contraire, je demande d'être moi-même fort. Au lieu d'adhérer strictement à la doctrine, beaucoup d'adolescents ont adopté un esprit éclectique et de suspicion à l'égard des vérités absolues. Dans un regroupement de 1999 adolescents rassemblés par George Barna, un chercheur en matière de religion, plus de la moitié était d'accord avec la déclaration suivante. Toutes les croyances religieuses enseignent des vérités valables. Là où des gens de la génération du baby-boom essaient le zen aujourd'hui, puis le méthodisme demain, les adolescents sont capables de rafistoler entre eux des morceaux provenant de diverses croyances religieuses, un peu de méditation bouddhiste ou de rituel catholique romain. Tout ce qui nous attire. Tout ce qui nous attire, c'est effroyable. L'anarchie religieuse moderne. Cette confusion totale mène bien sûr à l'anarchie religieuse. Mais cela risque aussi d'ouvrir la porte à ces millions de jeunes susceptibles d'être touchés par la séduction de masse que le faux prophète perpétrera. Lorsque cet homme s'élèvera et commencera à se montrer, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, au verset 9. Que feront ces millions de jeunes dans la confusion ? Emportés par l'excitation et influencés par l'hystérie collective qui accompagnera les prodiges sataniques de l'impie, verset 8, la plupart de ces jeunes gens succomberont à l'énorme pression pour joindre les mains à cette renaissance à venir et au retour à la tradition inspirée par Satan. Car de l'Europe occidentale à l'Amérique du Nord, il y a un désir de se raccrocher à des doctrines spécifiques et d'être guidé dans les domaines religieux et le comportement général. Des millions de gens sont malades et fatigués des fioritures, des paroles hésitantes, et ils se tournent vers leurs dirigeants spirituels. Ils réalisent que beaucoup de ces chefs religieux ne sont pas convaincus de quoi que ce soit. Bon nombre de ces chefs religieux s'interrogent sur la naissance virginale de Jésus, sur ses miracles, sur sa résurrection. Ils s'interrogent sur l'inspiration réelle de la Bible. Ils s'interrogent sur l'idée du second avènement de Jésus. Et s'il y aura vraiment un royaume de Dieu littéral sur cette terre, dont le Christ en sera le souverain. Tous les chefs religieux enseignent-ils des vérités de même valeur? Toutes les religions se valent-elles? Pouvez-vous croire n'importe quoi et être béni par le Dieu suprême, puis obtenir la vie éternelle d'après vos propres conditions? La seule façon d'être catégorique et vraiment exact en ce domaine consiste à prouver par vous-même qu'importe la méthode, si la Bible entière est inspirée par le Dieu réel qui a créé l'univers. Si la Bible n'est que partiellement inspirée, comme certains le croient aujourd'hui, alors chacun peut trier et faire son choix dans les portions de la Bible qu'il pense être inspirées. Puis il peut raisonner d'après la façon humaine à partir de cette portion, même s'il trouve des contradictions avec d'autres passages bibliques. Souvenez-vous que le Christ de la Bible a toujours été catégorique. Il ne mâchait pas ses mots, il déclara « Je suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Jean 10 au verset 7 à 8. Et en vérité je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 1. Plus loin, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. » « Je les connais et elles me suivent. » Verset 27. La plupart de nos lecteurs ont entendu la voix du Christ à travers son œuvre. Vous savez que nous ne nous esquivons pas, que nous ne dénigrons pas et que nous ne tournons pas autour des paroles de la Bible. nous avons prouvé que Dieu, le Créateur, inspira la Bible. C'est le manuel d'instruction divin destiné à l'humanité. Elle est précise dans tout ce qu'elle nous enseigne. Le cœur du sujet. Le passage le plus clair de tout ce qui peut expliquer l'Antéchrist se trouve dans 2 Jean au verset 6 et 7. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Fin de citation. Dans ce passage, nous voyons premièrement comment l'apôtre Jean est inspiré à nous donner la définition de l'amour, marcher selon ses commandements. Le contexte montre que les commandements dont il est question sont les commandements de Dieu le Père, voir le verset 4, et non pas quelques nouveaux commandements de Jésus. Bien que l'apôtre Jean ait écrit dans les années 90, c'est-à-dire 60 ans après la crucifixion du Christ et 20 ans après la mort de l'apôtre Paul, il n'y a même pas la moindre allusion que les commandements divins eussent été cloués sur la croix ou abolis par l'apôtre Paul. Ensuite, l'apôtre Jean rappelle à ses lecteurs qu'il s'agissait des commandements qu'ils avaient appris dès le commencement. En d'autres termes, ceci constituait l'essence de l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne. Voir Matthieu 19 au verset 17. Puis, au verset 7, l'apôtre Jean avertit que les séducteurs n'enseignent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Il dénonce un tel enseignement comme antéchrist. D'après le grec original, Jésus-Christ est venu en chair. Dans ce passage, le verbe indique un présent progressif, ce qui dénote que quelque chose est en train de se réaliser maintenant. En français, il serait plus juste de traduire Jésus-Christ comme venant en chair. Le Expositor's Bible Commentary tente d'expliquer ce passage, 2 Jean 7, dans les termes qui suivent. Curieusement, le temps est changé du passé, est venu, traduit de El Tutota, dans la chair, 1 Jean 4 au verset 2, au participe présent comme venant, traduit de Erkomenon, en chair. Cela pourrait s'expliquer, mais il faudrait interpréter cela comme une référence au retour de Jésus. Il est en train de venir, c'est-à-dire il reviendra en chair, voir 1 Jean 2 au verset 28 et 1 Jean 3 au verset 2. Mais, puisqu'il n'y a pas de controverse en ce domaine, l'explication paraît improbable. Dodd rend le sens obscur en traduisant le participe erkomenon au passé, comme si la signification était identique au passage de 1 Jean 4 au verset 2. Puis il propose une surprenante annotation qui dit « Notre auteur n'est pas un expert dans les subtilités de la langue grecque. » Johann in Expitals, page 149. Il est beaucoup plus certain, cependant, d'affirmer que l'écrivain connaissait la différence entre un participe présent et le passé, et que son intention consistait à nous dire quelque chose de différent de ce qu'il avait consigné dans 1 Jean 4 au verset 2. Comme ses experts versés dans le grec le reconnaissent, l'apôtre Jean a effectivement dit quelque chose d'autre que dans sa déclaration précédente, dans 1 Jean 4 au verset 2. Jean ne disait pas seulement que le Christ était venu totalement en chair. Dieu l'inspira dans ce passage écrit plus tard pour révéler que le Christ est maintenant en train de venir en chair. Comment cela? Comme nous l'avons déjà vu, Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, au verset 23. À travers le Saint-Esprit, le Christ et le Père vivent. En fin de compte, dans les véritables chrétiens convertis, en les guidant, en les inspirant et en les fortifiant pour observer les commandements et vivre le mode de vie divin, l'apôtre Jean fut également inspiré à rendre cela clair en écrivant J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, au verset 20. Voilà la clé. Par l'Esprit, le Christ veut littéralement vivre sa vie dans notre chair. Il nous donnera la force d'obéir aux commandements divins. Les contradicteurs religieux mettent au défi le chrétien réel en disant « Vous ne pouvez pas observer les 10 commandements. Ils sont spirituels et vous n'êtes que physique. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit peut répliquer. Vous avez raison. Par ma propre force humaine, je ne peux y arriver. Cependant, par ma soumission au Saint-Esprit de Dieu, j'y parviens et je veux observer les commandements divins. Le Christ qui est en moi m'aide à ne pas tuer, à ne pas dérober, à ne pas mentir, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas convoiter, à ne pas déshonorer mes parents, à ne pas transgresser le sabbat, à ne pas être idolâtre, à ne pas prendre le nom divin en vain, et à ne pas avoir d'autre Dieu devant le véritable Dieu. Il m'arrive de déraper, parfois, sur certains points, mais je me repens, et je confesse mon péché à Dieu, afin d'obtenir son pardon. 1 Jean 1, au verset 8 à 9. Puis, je retourne à Dieu en paix. Par son Saint-Esprit, je grandis dans la grâce et la connaissance. Je ne suis pas parfait, mais grâce au Christ qui vit sa vie en moi, je suis en train de croître vers la perfection en marchant dans la loi divine qui est le fondement de mon mode de vie. Le Christ vit dans le véritable chrétien. Selon la doctrine de l'Antéchrist, le Christ ne vivrait pas littéralement sa vie dans son peuple aujourd'hui. C'est le faux enseignement que les chrétiens aujourd'hui pourraient vivre une toute autre sorte de vie que celle vécue par le Christ dans ses véritables fidèles. Cette doctrine inclut souvent l'idée que le Christ a mené une vie juste à notre place. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de le faire. Il nous suffirait de l'accepter pour que sa justice nous soit imputée. Bref, selon cette doctrine, Dieu serait un blagueur et prétendrait que nous sommes réellement justes, alors que nous ne le sommes pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13 au verset 8. Aujourd'hui, il vivra le même genre de vie en vous et en moi qu'il y a près de 2000 ans, lorsqu'il était dans la chair sur la terre. À cette époque, il enseigna sans relâche l'obéissance à tous les commandements divins. Matthieu 5 au verset 19. Nous avons vu sa réponse au jeune homme qui lui demandait comment obtenir la vie éternelle. Observe les commandements. Matthieu 19 au verset 17. Vers la fin de l'ère apostolique, Dieu inspira l'apôtre Jean à faire une description des véritables saints de Dieu. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22 au verset 14, version Osterval 1996. Il y a beaucoup de faux ministres aujourd'hui qui enseignent la doctrine de l'Antéchrist, une doctrine qui autorise la désobéissance aux commandements divins, une doctrine sans œuvre. L'apôtre Paul a dit de ses ministres: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, au verset 13 à 15. Vous remarquez ici que Satan a des ministres qui font semblant d'être justes. Ironiquement, leur fin, leur récompense finale, sera selon leurs œuvres, ces œuvres mêmes qu'ils s'efforcent de rejeter. Dieu veut que nous obéissions à ses commandements, que nous fassions de bonnes œuvres et que nous vivions de toutes ses paroles. Lorsque vous saisirez ce principe, vous pourrez comprendre l'esprit de l'Antéchrist et comment évaluer si la pensée d'un chef religieux ou une doctrine quelconque vient de Dieu. Puis, par votre étude diligente de la parole divine, et par vos prières constantes, vous en viendrez à comprendre plus profondément le but réel de votre vie. Vous apprendrez à établir un contact plus intime avec le Dieu vivant, au-delà même de ce que vous pourriez imaginer. Vous en viendrez à voir qui est le véritable Dieu, ainsi que sa véritable Église, qui proclame fidèlement le même évangile qu'il a annoncé par Jésus-Christ. En ces temps de la fin, ce message d'obéissance au royaume de Dieu et à sa loi est prêché par son Église, en tant que témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, au verset 14. Vous lisez ce message en ce moment. Dans Apocalypse 12, au verset 17, la véritable Église de Dieu est représentée par une femme persécutée par le diable. Cette Église se compose d'un petit reste. Ses membres sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Les véritables saints de Dieu sont aussi décrits dans Apocalypse 14, au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Aujourd'hui, Jésus vit et demeure au sein de son peuple par l'intermédiaire du Saint-Esprit. En fonction de son degré de soumission, le chrétien approchera de la pleine et entière soumission qui était celle de Jésus dans la chair. Ses habitudes, ses traditions, son mode de vie seront à tout égard ceux de Jésus, car celui-ci ne change pas. Il vivra en eux. Alors le Christ et le Père seront absolument certains que leur peuple leur est totalement soumis, qu'il peut partager la nature et le caractère divin. et les préparer à devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume littéral de Dieu qui sera bientôt établi sur cette terre. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, au verset 5 à 6. Examinez-vous, vous-même, honnêtement, aviez-vous réellement compris le christianisme auparavant? Le Christ vit-il réellement sa vie en vous? Avez-vous la charpente assez solide pour agir d'après la connaissance que vous venez d'acquérir? La restauration du christianisme apostolique. Comme de nombreux lecteurs le savent, cette œuvre est en train de restaurer le véritable christianisme de Jésus et de ses apôtres, car l'authentique christianisme apostolique a été perdu par les églises traditionnelles. Si Jésus devait pénétrer aujourd'hui dans une église protestante ou catholique, il y trouverait des gens dont la conception de Dieu est bien différente de celle qu'il a enseignée. Ces gens observaient des jours différents pour l'adoration de Dieu, des jours dont l'origine est païenne et qui n'indiquent ni le véritable Dieu ni son plan grandiose, comme le font les jours saints bibliques. Jésus constaterait que la plupart de ces prétendus chrétiens n'ont pas conscience de la façon d'observer vraiment les 10 commandements, ni sur l'importance que le Christ leur accorde. Voir Matthieu 19 au verset 17. Ces individus aveuglés se livrent à des guerres les uns contre les autres. Eux et leurs ministres du culte, également séduits, semblent ne faire aucun cas des instructions claires de Jésus. Dans Matthieu 5, 43 au verset 44, vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Les prétendus chrétiens sont aveuglés sur le fait que les véritables chrétiens sont aujourd'hui à l'entraînement pour devenir des rois et des sacrificateurs sous Jésus-Christ, dans le but de servir sous lui à l'administration de ce monde au cours du millénium. Voir Apocalypse 5 au verset 9 à 10 et Apocalypse 20 au verset 6. Ils prétendent, contrairement aux enseignements de Jésus, qu'ils iront au ciel après la mort et qu'ils n'auront rien à faire. Ces faux enseignements les ont rendus aveugles au dessein que Dieu est en train d'accomplir sur cette terre. Si Jésus revenait aujourd'hui, il trouverait dans les églises des gens qui ont une approche sentimentale de sa personne, mais qui n'ont de fait aucune compréhension du message puissant qu'il a prêché. Ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, mais il n'est pas leur Seigneur, car ils ne lui obéissent pas, ou ils se disputent pour savoir comment lui obéir. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6, 46. Et encore, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7 au verset 21 à 23. Ceux qui manquent de prêcher et de pratiquer l'obéissance aux 10 commandements sont dans une terrible situation. La parole divine révèle que la vaste majorité des êtres humains ont été séduits, car Dieu a permis que Satan séduise toute la terre. Apocalypse 19 au verset 9. L'apôtre Paul a averti les Corinthiens. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 au verset 3 et 4. L'apôtre Jude nous met particulièrement en garde. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Jude 3 et 4. Il est intéressant de noter que l'apôtre Jude fut inspiré par Dieu à signaler que ces faux enseignants changeraient la grâce en dérèglement, ce qui est le cas de nos jours. En effet, en général, l'enseignement protestant prétend que vous êtes sauvés en acceptant sentimentalement la mort du Christ, et que partant de là, vous n'avez plus rien à faire. Nulle obéissance aux 10 commandements. Aucune croissance dans la grâce, dans la connaissance et dans la maturité spirituelle. Aucun encouragement à vaincre votre nature humaine, le monde et Satan. Ce que vous devriez faire. De récents reportages dans les journaux indiquent que la persécution des catholiques romains contre des religions minoritaires n'a pas cessé. Quoique l'Église catholique romaine ait appris à être accueillante et à agir avec bienveillance au sein des nations à majorité protestante ou autre, les vieux démons de haine et d'autoritarisme ressortent promptement lorsqu'elle a le pouvoir. Dans le magazine Christianity Today, août 2000, page 30, on peut lire. En mars, environ 70 familles protestantes furent expulsées du village mexicain de Plan de Ayala, dans l'état de Chiapas, par la majorité de la ville catholique romaine. 14 maisons furent détruites par la foule, alors que les protestants cherchaient refuge dans les collines, raconte le pasteur adventiste du septième jour, Isias Espinosa. Cela n'est qu'un petit échantillon du type d'oppression religieuse pratiquée par cette puissante église. Et ses chefs continuent à souligner qu'ils représentent l'unique église véritable et que les autres ne sont que des chrétiens de seconde classe. Notez ce rapport du 5 septembre 2000, rédigé par Victor Simpson de la Société de presse. Je cite, « Accusant certains théologiens catholiques de manipulation des vérités fondamentales de l'église, le Vatican a rejeté mardi ce que l'on dit des tentatives croissantes, tendant à faire admettre l'égalité de toutes les religions. Le Vatican se réfère à l'égalité de la dignité humaine des personnes, mais pas à la doctrine. Il s'agit du second document récent de la Congrégation. Congrégation pour la doctrine de la foi catholique romaine, mettant en garde contre les abus des catholiques dans leur rapport envers les autres religions et dominations. La Congrégation a également mis en garde contre le terme « Église sœur » en disant que cela est en contradiction avec l'identité de l'Église catholique qui est la mère de toutes les églises. Ce document n'a cependant pas été divulgué. Le cardinal Joseph Ratzinger, lors d'une autre conférence, n'a cessé de faire référence à une tendance au relativisme religieux. Le manque d'unité parmi les chrétiens est sans nul doute une plaie ouverte pour l'Église, disait le document en notant que cela entravait la réalisation complète de son universalité historique. La déclaration, qui est un document théologique complexe, a pour titre « Sur l'unité et l'universalité salvatrice de Jésus-Christ et de l'Église ». Ainsi, l'Église catholique romaine ne se contente pas de l'admettre simplement, mais encore insiste-t-elle qu'elle est la mère de toutes les églises prétendument chrétiennes. Elle insiste également qu'elle seule détient les clés du royaume de Dieu. Il est vraiment temps de nous réveiller. Il est temps pour tous ceux qui croient en Dieu de faire marche arrière et de prouver si leurs croyances et leurs pratiques religieuses proviennent de la Bible ou si elles sortent de Babylone. Car le Dieu suprême dit à tous ceux qui sont sur leur garde, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18, au verset 3 et 4. Quoique, comme l'a écrit l'apôtre Jean, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. 1 Jean 2, au verset 18. Il est aussi vrai que l'antéchrist sera pleinement personnifié et incarné en la personne du faux prophète de 2 Thessaloniciens 2, au verset 1 à 10, et Apocalypse 13, au verset 11 à 14. Il est probable que dans les prochaines décennies, cet individu rusé fasse son entrée sur la scène mondiale. Il paraîtra d'abord comme un grand pacificateur et bienfaiteur de l'humanité. Il ne tardera pas à accomplir des miracles, allant même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Apocalypse 13, au verset 13. Mais son enseignement sera contre le Christ. Il y aura beaucoup de rituels, de pompes et de cérémonies, de même qu'un grand nombre de déclarations apaisantes. Néanmoins, il ne s'y trouvera pas l'enseignement limpide de Jésus de Nazareth, pour observer les commandements divins et pour imiter littéralement le Christ, pour se soumettre à ce que le Christ vive sa vie d'obéissance en nous par le Saint-Esprit. Rappelez-vous toujours que cela est la clé. Satan le diable n'est pas contrarié que vous croyiez en Christ, aussi longtemps que votre Christ est un faux Christ. Il n'est pas contrarié que vous alliez à l'église de votre choix, à condition qu'ils puissent vous séduire dans une église qui se laisse diriger par des théologiens aveuglés qui ont rejeté les commandements. Jésus a dit, « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Matthieu 15, au verset 14. Je vous exhorte au nom du Christ à étudier sérieusement la Bible comme jamais auparavant. Rendez-vous service à vous-même en vous abonnant à titre totalement gratuit à notre très éducatif cours de Bible. Étudiez la Bible à l'aide de ce cours et conformez-vous aux recommandations inspirées de l'apôtre Paul. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, au verset 21. Je vous encourage également à nous écrire pour recevoir un exemplaire gratuit de nos deux brochures édifiantes, intitulées respectivement « La bête de l'Apocalypse » et « Quel est le jour du sabbat chrétien ?». Ces brochures, jointes à celles que vous êtes en train de lire, vous apporteront toute la lumière et la preuve sur la nature du pouvoir et des forces menaçantes qui sont en train de monter maintenant en Europe. Comme l'a dit Jésus, veillez, gardez les yeux sur la renaissance du Saint-Empire romain. Veillez. Comment cet empire commencera à s'approprier lentement mais sûrement tout le pouvoir en Europe, puis en Amérique centrale et en Amérique du Sud, pour finalement contrôler presque la totalité du monde. Veillez comment d'autres églises seront petit à petit encouragées, persuadées ou finalement contraintes à regagner l'église mère. Vous serez déçus de voir comment beaucoup de chefs protestants et évangélistes, supposément dévoués, seront manœuvrés et contraints d'abandonner sous la pression. Un grand nombre de croyances qu'ils avaient toujours défendues. Vous détournerez-vous également du Dieu de la Bible? Vous joindrez-vous ou continuerez-vous à participer à un christianisme dilué dans lequel des membres séduits violent de façon continue le sabbat ordonné par Dieu? Participerez-vous à un groupe où il est permis ou même parfois encouragé de se battre et de tuer à la guerre, contrairement à l'enseignement de Jésus? Matthieu 5, au verset 43-45. Vous mêlerez-vous à une église où la pompe, les cérémonies et le culte des idoles sont pratiqués, où le concept d'une obéissance littérale aux 10 commandements en tant que mode de vie n'est pas enseigné, et de laquelle des arguments fourbes contre le besoin d'observer les commandements divins pour être véritablement chrétien sont continuellement utilisés contre ceux qui prêtent l'oreille aux paroles du Christ? Bientôt, la personnification ultime de l'Antéchrist montrera sur la scène mondiale. Donnant d'abord l'image d'une sorte de pacificateur, il imposera progressivement son autorité. Cette dernière sera rehaussée par les faux miracles que Satan accomplira à travers lui. Apocalypse 13, au verset 13. Ensuite, les masses qui l'adoreront pousseront des cris d'excitation lorsqu'elles le verront, et la doctrine de l'Antéchrist pénétrera pratiquement tous ceux qui professent le christianisme, tous excepté le petit troupeau. Luc 12, au verset 32. Décrit dans Apocalypse 12, au verset 13 à 17. Pour votre bien éternel, priez pour obtenir une compréhension, une foi et un courage réel. Obéissez à la directive de Jésus. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, au verset 36. Fin.